À voix nue, Caroline Brouet.
Lilian Thuram, ancien joueur de foot de l'équipe de France. Aujourd'hui, fondateur d'une fondation éducation contre le racisme. Je suis le papa de deux garçons et le mari de Karine Guéroc.
Troisième épisode, on ne naît pas raciste, on le devient. Bonjour Lilian Thuram.
Bonjour.
On va parler d'une chose dont on n'a pas encore parlé et qui explique peut-être votre deuxième vie à la tête de la fondation Lilian Thuram, éducation contre le racisme et pour l'égalité. Cette chose, c'est le racisme. Vous dites souvent que vous êtes devenu noir à 9 ans. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je suis donc né aux Antilles, j'arrive dans la région parisienne à l'âge de 9 ans. Et dans cette classe de CM2, il y a des enfants qui m'insultent de sale noire. Et je dis que je deviens noir à l'âge de 9 ans, parce qu'avant, je m'appelais Lilian, et ma mère m'appelait Lico. Et donc, j'avais pas conscience d'être noir, puisque la grande majorité, voire la totalité des personnes qui étaient autour de moi, nous avions la même couleur de peau. Et lorsque vous êtes enfant, ben, on ne se perçoit pas à travers la couleur de peau. Et donc, c'est pour ça que je dis, je deviens noir à l'âge de 9 ans. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces enfants qui m'insultent de sale noire, en fait, à quel âge ils sont devenus blancs? Parce qu'on devient blanc aussi. C'est-à-dire qu'on ne naît pas blanc ou on ne naît pas noir. On le devient. Et donc, c'est pour ça que c'est, il faut questionner, en fait, ces catégories que nous utilisons. Et on devient noir ou on devient blanc parce que nos cultures, nos sociétés se sont construites sur l'idée qu'il y avait des races et qu'il y avait des hiérarchies selon la couleur de la peau.
On parle de vous comme la Noiraude. Alors la Noiraude, à l'époque, faut se souvenir, on est au tout début des années 80, en 81, c'était une série télé d'animation, c'était une vache, la Noiraude, qui appelait son médecin et qui posait des questions bêtes, qui faisait rire. Voilà, on vous appelait la Noiraude. Est-ce que vous vous souvenez de la façon dont vous avez réagi, vous? C'est-à-dire, est-ce que ça vous a rendu triste? Est-ce que ça vous a mis en colère? Quel souvenir vous avez de ça?
Ben, ça vous rend triste, mais c'est pas que triste, en fait. Je dis souvent, c'est comme s'il y avait une morsure, c'est comme si vous saigniez, mais à l'intérieur, et que personne d'autre que vous, ben, est conscient de ça. Ça veut dire qu'à l'intérieur, vous êtes blessé. Et moi, je me souviens très bien, je le dis souvent, je rentre à la maison, en fait, et je raconte cette histoire à ma mère, en fait. Et ma mère me dit, c'est comme ça, les gens sont racistes, ça va pas changer. Et donc, en fait, c'est le racisme, c'est une fatalité. En fait, se faire agresser, se faire humilier, c'est une fatalité, c'est comme ça, ça va pas changer. Et surtout, quand elle me dit, c'est comme ça, ça va pas changer, les gens sont racistes, c'est que elle, c'est l'idée, les blancs sont racistes. Les gens. C'est qui les gens? Donc, dans ce cas-là, ces enfants-là vont devenir dans ma tête à moi, des blancs. Puisque je suis noir, donc eux, ils sont pas noirs, eux, ils sont blancs. Et en fait, toute ma vie, ça va être ça. Je vais être confronté au racisme, on peut rien faire. Et je pense que lorsque vous subissez le racisme pour la première fois, je pense que ouais, c'est un traumatisme en fait. Je dis très souvent que le racisme rend malade. Mais les gens qui ne subissent pas le racisme, je pense qu'ils n'ont pas conscience de ça. Parce que c'est vraiment quelque chose qui blesse ce qui est essentiel chez les enfants, l'estime de soi. C'est-à-dire que si on vous dit que vous êtes sale, ben le lendemain, vous voulez être propre en fait. Mais comment vous faites pour être propre? C'est le lendemain, vous ne voulez pas être ce que vous êtes, mais comment vous faites pour ne pas être ce que vous êtes? C'est très compliqué lorsque vous êtes enfant, c'est-à-dire que si on vous dit « Tiens, ton pantalon, là, c'est n'importe quoi », ben écoute, tu remets plus le pantalon. C'est très simple, mais lorsqu'on vous parle de votre couleur de peau et on vous rabaisse à quelque chose de négatif, ben vous pouvez peut-être développer un complexe d'infériorité. C'est pour cela qu'il faut, vraiment prendre au sérieux, en fait, le harcèlement raciste Et bien évidemment, je pense que la grande majorité des gens qui ne subissent pas le racisme ne comprennent pas cette violence-là. Et surtout que les personnes comme ma maman, en fait, ils ont tellement été habitués au racisme, parce que, en fait, la hiérarchie selon la couleur de la peau, ça date pas de hier, comme on dit. Et donc, ils se sont habitués. C'est-à-dire que dans la phrase de ma maman, c'est comme ça, les gens racistes, ça ne va pas changer. En fait, elle s'est habituée, parce que normalement, quand vous faites violenter, ben, vous dites à votre enfant, oh, tu te laisses pas faire, hein. D'accord? Par contre, ce qui est très intéressant sur la violence physique, ma mère m'a toujours dit, tu ne te laisses pas faire. Si jamais il y a quelqu'un qui se bat avec toi, je ne veux rien savoir, tu te laisses pas faire. Mais par contre, sur le racisme, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Et donc, c'est ça qui est très intéressant. Comment, en fait, toute une société s'est habituée au racisme, en fait.
Mais ça veut dire, Lilian Thuram, qu'après, dans les clubs de foot où il y a eu aussi des insultes racistes, dans les stades où vous avez subi des sifflets, des insultes racistes, vous vous disiez ce qu'avait dit votre mère, ou il y avait une petite musique intérieure qui disait « Non, 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 avec moi, ça passera pas ».
Mais en fait, quand j'étais enfant et que je jouais au foot, en fait, il n'y avait pas trop d'insultes sur la couleur de peau. Quand j'étais enfant, par exemple, lorsque je jouais au Portugais de Fontainebleau, en fait, on ne nous insultait pas de sale noire, on nous insultait de sale portos. D'accord ? Et très souvent, par exemple, nous, on se battait avec l'autre équipe. D'accord ? Ça finissait en bagarre. Et ils disaient toujours, ouais, mais quand on joue contre les Portugais de Fontainebleau, de toute façon, c'est des voyous, il y a toujours des bagarres. Mais sauf que les gens ne se rendaient pas compte qu'on se faisait toujours insulter. Et quand tu te fais insulter enfant, le réflexe que tu as, ben, c'est de se battre. Et donc moi, je devenais, ce qui était très intéressant aussi, c'est que je devenais portugais quand j'étais dans l'équipe. Et donc, on se défendait, voilà. Mais c'est plus tard.
Alors, comment vous avez réagi plus tard?
En fait, alors, moi, il y a eu un moment qui reste très présent. C'est la première fois où je vois à la télévision, dans une équipe professionnelle, un joueur se faire insulter. C'était Joseph Antoine Bell. C'était, je crois, en 1990. Et donc, moi, j'étais jeune joueur de foot et je comprenais pas. Parce que, OK, qui est du racisme, vous savez que ça existe parce que vos parents vous en parlent, vos frères, vos sœurs, OK. Mais qu'à la télévision, un match de foot, vous rêvez d'être joueur de foot. Le foot, c'est tout pour vous. Et là, un joueur se fait insulter. Donc, ça existe même là. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est traumatisant. Et c'est pour cela que d'ailleurs, très souvent, lorsqu'un joueur noir se fait insulter, d'accord, on oublie que ce n'est pas que lui qui se fait insulter. En fait, toutes les personnes noires se sentent insultées à ce moment-là. Et moi, enfant, je me suis dit, mais non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et effectivement, j'ai eu la chance d'apprendre à connaître cette histoire, à comprendre le pourquoi du racisme. Et quand, par exemple, je suis arrivé en Italie, où parfois, lorsque je touchais le ballon, ou d'autres joueurs noirs touchaient le ballon, il y avait le bruit du singe ou des insultes. En fait, j'avais déjà compris le mécanisme. Donc, ça veut dire que j'en souffrais pas. Parce que le fait de comprendre le mécanisme, en fait, ben, vous ne souffrez pas. Et vous savez pourquoi ils font le bruit du singe? Parce que c'est lié à l'histoire de la racialisation du monde. La race blanche est supérieure. Tout en bas de l'échelle, il y a la race noire qui est juste avant les singes. Et c'était appris aussi à l'école. Et donc, il y a toute une culture monde qui s'est construite là-dessus. Donc, je comprends ce qui se passe. Et donc, je dis, il faut pas l'accepter. Donc, ça veut dire que je dis, moi, non, il faut pas accepter cela. Parce que très souvent, lorsque vous acceptez, c'est que vous ne savez pas d'où ça vient et que vous pensez que c'est normal. D'ailleurs, la plupart des gens, ils vous disent, ouais, mais le racisme, c'est normal, tout le monde est raciste. Ben non, c'est pas vrai. C'est une idéologie, c'est une construction politique. Et donc, on peut la déconstruire et on peut savoir qu'il y a une histoire assez longue et nous sommes le résultat de cette histoire. Et l'inconscient collectif est chargé de cette histoire. Et c'est pas un hasard qu'on dit qu'il y a des gens blancs, des gens noirs. Non. C'est lié à la racialisation du monde. Et donc, quand j'ai pu comprendre, je sais aussi qu'il ne faut pas l'accepter, il faut la dénoncer. Ça, c'est très important. On peut changer les choses à partir du, on dit non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Sachant que lorsque vous subissez le racisme, on finit par vous dire que vous n'avez pas d'autre choix. Et que peut-être que lorsque ma maman me disait ça, c'est-à-dire c'est comme ça les gens sont racistes, ça ne va pas changer, c'est qu'elle me protège aussi. En disant, si toi tu dénonces le racisme, fais attention que ça va se retourner contre toi. Et effectivement, lorsque vous analysez l'histoire du racisme, toutes les personnes qui ont dénoncé le racisme finissent par être violentées. Aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, Nelson Mandela, c'est un super-héros. Nelson Mandela, Martin Luther King, ce sont des super-héros. Mais ils ont été tous violentés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils dénonçaient le suprémacisme blanc. Juste pour ça. Ils dénonçaient le racisme. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui subissent le racisme et qui ont peur de dénoncer le racisme parce qu'en fait, ils se disent, de toute façon, ils vont me le faire payer. Et donc, c'est pour cela qu'il faut dire aux jeunes générations, non, n'ayez pas peur de dénoncer le racisme. Il faut dénoncer le racisme. On ne négocie pas, en fait. On ne fait pas comme si on n'avait pas entendu. On n'accepte pas. Donc, il faut créer toute une génération de jeunes filles, de jeunes garçons, qui vont dire, moi, j'accepte pas le racisme, en fait.
Et pour le dénoncer, donc, il faut d'abord le comprendre. Pour le comprendre, il faut remonter aux sources, aux racines du racisme. Et c'est ce que vous avez essayé de faire, fait, dans un essai intitulé « La pensée blanche », où vous tentez de répondre à cette question d'où ça vient. Vous montrez comment Lilian Thuram, en créant des Noirs, les sociétés européennes, ont inventé les Blancs. C'est une construction, au même titre que le genre est une construction, puisque vous faites beaucoup de rapprochements avec les femmes, bien que les femmes ne soient pas une minorité, au sens où on entend souvent les Noirs comme une minorité dans la société. Mais c'est ça l'idée, c'est que c'est une construction, donc on peut le déconstruire.
Exactement, et il faut essayer de comprendre pourquoi on a construit en fait ces hiérarchies. En règle générale, lorsqu'on construit des hiérarchies, c'est pour pouvoir exploiter des personnes. Voilà. Et c'est très difficile à mettre fin à ces hiérarchies parce que ceux qui sont tout en haut tirent profit, qu'ils veuillent ou non, de cette hiérarchie. Et ce qui est très intéressant dans l'analyse du racisme, c'est qu'on pourrait se poser la question pourquoi ça perdure comme ça dans le temps. Mais ça perdure dans le temps parce que il y a aussi une source de plaisir à dominer l'autre, à se sentir mieux que l'autre. Et c'est ce qu'on doit questionner. Mais pour questionner tout cela, il faut aussi regarder l'histoire d'un autre point de vue. Et ça, ça peut déranger.
Quand on voit la pensée blanche sur la couverture de votre livre, on se dit, oula, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est être blanc ? Qu'est-ce que c'est la pensée blanche ? Comme si c'était la pensée des blancs. Et il faut lire le livre pour comprendre ce que vous entendez par la pensée blanche, c'est-à-dire cette pensée qui accepte le système de domination. C'est cette pensée qui érige le blanc comme la couleur supérieure et qui l'érige en norme. C'est pas la pensée des blancs, c'est une idée qui est être blanc, c'est mieux. C'est ça, la pensée blanche. Mais vous auriez pu dire c'est la pensée racialiste ou la pensée raciste.
En fait, ce qui est, c'est à vous écouter, ça me rappelle un petit peu tout le débat autour du titre du livre.
Exprès que je vous pose la question, ouais. Hein, vous savez.
Que j'ai eu avec ma maman, avec mes amis, en disant « Non, mais attends, tu peux pas mettre ce titre, tu vas avoir des problèmes. Tu sais bien que les Blancs, ils aiment pas qu'on parle d'eux. » Et je disais « Mais attendez, excusez-moi, je comprends pas là. Vous ne savez pas lire. » Il me dit « Bah oui. » Je dis « Mais c'est pas la pensée des Blancs. C'est la pensée blanche. » Ah oui, ok. Parce que beaucoup de personnes lisent la pensée des Blancs.
Oui.
Et d'ailleurs, je vous assure, il y a vraiment eu un débat et personne ne voulait de ce titre-là. Mais pourquoi ils ne voulaient pas de ce titre ? Pour me protéger. Comme si, en fait, il fallait me protéger. Comme, je reviens encore une fois, lorsque vous dénoncez le racisme, en fait, on va vous en vouloir, vous allez devoir payer le prix. Et je leur dis, non, mais vous inquiétez, moi, il n'y a pas de problème. S'il y a certains qui ne savent pas lire, moi, je ne peux rien faire. la pensée blanche n'est pas la pensée des blancs, puisque je dis moi-même que les personnes dites noires ont intégré cette pensée. C'est l'idée qu'être blanc, c'est mieux. Moi, je suis de la société antillaise. Ma maman, lorsqu'elle était plus jeune, par exemple, on lui disait, on lui faisait comprendre qu'il était préférable qu'elle se marie avec quelqu'un qui aurait la peau plus claire, pour avoir des enfants qui auraient la peau chapée, la peau échappée du noir, la peau moins noire. Et l'idée, c'était d'éclaircir, de blanchir, en fait, les enfants, pour qu'ils aient moins de problèmes dans leur vie. Parce que plus vous êtes clair de peau, plus vous êtes blanc, moins vous avez des problématiques, moins vous subissez le racisme. Et c'est partout dans le monde. C'est-à-dire qu'en Asie, en fait, il y a des gens qui se blanchissent la peau. En Afrique, il y a des gens qui se blanchissent la peau. Pourquoi ? Parce que dans l'imaginaire collectif, être blanc, c'est mieux. Et c'est une réalité. Et donc, d'où cela vient ? Encore une fois, je dis souvent, il faut se poser la question, pourquoi je dis ce que je dis ? Pourquoi je pense ce que je pense ? Et donc, c'est lié à comment nous avons été éduqués, comment nous avons été conditionnés. Parce que très souvent, on ne prend pas conscience que notre éducation est due à des conditionnements. Ça peut être le conditionnement de la famille, conditionnement de l'environnement où on se trouve, dans la catégorie sociale où on est élevé. En fait, c'est des conditionnements, des façons de faire qu'on ne questionne pas. Et donc, l'idée pour moi, c'est emmener des connaissances pour pouvoir voir que on peut regarder les choses différemment, comprendre les complexités des choses.
J'ajoute juste une chose par rapport à ce débat sur le titre et sur le livre, Lilian Thuram. De fait, vous le précisez, mais je pense que ça va mieux en le disant, que tous les blancs n'ont pas défendu la pensée blanche.
Ben non.
Il y en a eu, il y a des exceptions. Peut-être qu'il confirme la règle, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a des exceptions qui sont dans ce livre. Et on ne va pas revenir sur un certain nombre d'entre eux. On invite nos auditeurs et nos auditrices à aller lire La pensée blanche. Mais malgré tout, quand on referme ce livre, on se dit que c'est très difficile de ressentir autre chose qu'une profonde colère. Qu'on soit blanc et qu'on soit noir, mais je vois bien que je ne suis pas dans votre situation parce que je suis de couleur claire. cette colère qui me rappelle le livre de Ta-Nehisi Coates, Une colère noire, qui rappelle les livres et les propos de James Baldwin et de bien d'autres. Et c'est vrai que c'est quand même difficile de ne pas associer, et vous l'avez fait tout à l'heure, même sur le débat, sur le titre, vous disiez, mes frères, mes sœurs, ma mère disaient, fais attention parce que les blancs, ils pensent comme ça, les noirs... d'essentialiser. C'est-à-dire que on dit les blancs, on dit les noirs facilement. Et pourtant, on n'associe pas tous les blancs à cette pensée blanche. Mais c'est un travail à faire. Parce que quand on est profondément révolté, profondément en colère, quand on lit toute cette histoire, et encore une fois, c'est extrêmement documenté, et ce sont souvent des faits. Qu'est-ce qui fait qu'on ne devient pas anti-blanc ?
Anti-blanc ?
On ne s'énerve pas, on ne transforme pas cette colère en rage, en haine.
Alors,
qu'est-ce qui fait qu'on devient blanc ?
Moi, je pense sincèrement que vous avez dit qu'on dit facilement les blancs, on dit facilement les noirs. En fait, c'est pas vrai. On dit pas facilement les blancs. D'ailleurs, les personnes blanches parfois sont déstabilisées quand ils entendent blanc, quand on leur nomme en disant que t'es blanc. Ils comprennent pas. C'est une agression. Mais lorsque vous êtes noir, d'accord, que vous le vouliez ou non, vous savez que tous les blancs ne fonctionne pas de la même façon, ne pense pas de la même façon. Parce qu'en fait, vous avez des référents blancs. C'est-à-dire que vous regardez un film. Vous allez voir que il y a plusieurs personnages et ils ne fonctionnent pas de la même façon. Vous allez lire des auteurs blancs et vous allez voir qu'il y a une multitude de formes de pensée.
C'est pas pareil avec les noirs ?
Non, parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, si vous arrêtez des personnes blanches, vous leur dites, dis-moi, quel écrivain noir tu connais ? Quel acteur de cinéma noir que tu connais ? Quel intellectuel noir que tu connais ? Très souvent, ils n'en connaissent pas. Et donc, ça veut dire qu'ils ont une image stéréotypée de qu'est-ce que c'est être noir ? Et moi, je l'ai vécu, C'est-à-dire que dans très rapidement, si vous faites des tests, en fait, on va vous dire « Ouais, les Noirs sont comme ça. » Mais un Noir ne peut pas dire « Les Blancs sont comme ça. » Parce qu'encore une fois, dans l'imaginaire, dans son imaginaire, il a grandi avec des multitudes de possibilités d'être blanc. Une fois, chez une amie, c'était qui avait une fille de 6-7 ans, et on discutait, et je lui dis, tiens, ma chérie, au fait, je peux te poser une question ? Elle me dit, oui. Ils sont comment, les Noirs ? Elle me dit, non, mais les Noirs, ils sont méchants. Je dis, comment ça, ils sont méchants ? Et moi, alors ? Et Kefren et Marcus ? Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, ce qui est très intéressant, c'est parfois poser des questions qui peuvent paraître stupides ou dérangeantes pour voir que dans l'inconscient collectif, il y a des choses. C'est comme, par exemple, tout bête, je dis à, quand Marcus et Kefren étaient tout petits, je leur dis, décrivez-moi Dieu. Ils me décrivent Dieu et je leur dis, mais attendez, je comprends pas, pourquoi vous dites que Dieu, il est blanc ? Pourquoi vous dites que c'est un homme ? Ben, toi, vous êtes de couleur marron, ben, vous auriez pu vous imaginer Dieu marron. Et vous voyez donc, c'est en fait, en fait, nous sommes éduqués à travers des prismes, et moi, j'aimerais qu'on puisse juste se confronter à ces prismes-là. Quand j'étais enfant, par exemple, au foot, et quelque chose disparaissait dans les vestiaires, eh ben, ceux qui étaient soupçonnés, c'était les jeunes garçons noirs et les jeunes garçons arabes. Mais pourquoi ? Mais c'est lié à une histoire, c'est ça que je veux dire. Et donc, l'idée, c'est développer l'intelligence et de dire aux gens, nous sommes le fruit d'une histoire. Que vous le vouliez ou non, que vous le vouliez ou non, le monde moderne s'est construit sur hiérarchie selon la couleur de la peau. Et ces hiérarchies existent encore dans nos sociétés. Voilà, c'est comme le sexisme. C'est tout. Il faut juste peut-être avoir le courage que lorsqu'on parle de blanc, de ne pas vous sentir agressé. Parce que lorsque vous êtes blanc, bah vous n'avez pas à vous sentir agressé. Ça n'a aucun sens. Je peux vous raconter une autre petite histoire sur le livre. Donc, il y a une jeune fille qui me dit, voilà, j'aimerais quand même, pour la sortie du livre, discuter avec toi sur comment tu parles de ce livre pour qu'il n'y ait pas des incompréhensions. J'ai dit, okay, si tu veux, d'accord, il n'y a pas de problème. On fait tout un travail, je lui explique le livre. Elle me dit, ouais, c'est incroyable et tout. Et elle, en lisant le livre, elle commence à être en colère. Elle me dit, non, mais c'est incroyable. Je lui dis, toi, c'est marrant parce que toi, t'es plus en colère que moi. C'est une femme blanche. Je lui dis, mais tu sais pourquoi t'es plus en colère que moi? Parce que tout d'un coup, c'est un monde que tu découvres, que tu ne connais pas. Mais quand tu es une personne noire, t'as pas le droit d'être en colère. Attention. Si tu es une personne noire, si jamais tu es en colère en parlant de ces sujets, en fait, on va finir par te voir comme quelqu'un de radical. Elle me dit, ah ouais, c'est vrai. Et un jour, elle ramène le livre chez elle. Le livre n'était pas sorti, hein, c'était...
Des épreuves.
Et son mari lui dit, ah non, mais c'est quoi ce livre de raciste, en fait ? Non, mais ton copain, là, c'est incroyable. Ça veut dire que... pourquoi il fait ça ? Pourquoi il écrit des livres comme ça ?
Procès de l'homme blanc.
Exactement.
La pensée blanche a été accusée. Pourquoi ?
Ouais.
Désocialisation.
Pourquoi il écrit un livre comme ça ? Il a un problème, ton copain. Il est raciste, il n'aime pas les blancs. Et donc, elle me raconte cette histoire. Je lui dis, tu vois, c'est très intéressant parce que ça dit quelque chose de ton mari. Tout d'abord, il ne sait pas lire parce qu'il a lu la pensée des blancs. Et il faut qu'il puisse te dire pourquoi c'est un livre raciste alors qu'il n'a pas ouvert le livre. C'est bizarre quand même, non ? Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que lorsque vous voulez aborder ces sujets et que vous êtes une personne noire, on finit déjà par anticiper ce que vous pouvez dire. Mais c'est très marrant quand même. Et c'est pour ça que je dis que le sentiment raciste se cache dans des pensées qui peuvent paraître être subtiles, mais qui ne sont pas subtiles.
À mon sens, il y a deux réactions possibles quand on lit ça et le livre en entier. Soit on assume ce que vous appelez la pensée blanche, soit on ne se sent pas blanc, au sens où la pensée blanche le définit. Mais comme on n'est pas noir non plus, Alors, on est quoi? Alors, est-ce qu'il faut faire comme vos fils, inventer des nouvelles couleurs sans idéologie? On fait table rase et on dit, on est marron, on est rose.
Alors.
Mais, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? Quelle réaction vous aimeriez que ça amène chez le lecteur et la lectrice blanche?
En fait, le truc, c'est que se positionner avant tout comme être humain. D'accord? Nous sommes des êtres humains. Donc, comme nous sommes des êtres humains, mais comme nous utilisons des catégories liées à la couleur de la peau, donc il faut questionner ces catégories. De se dire pourquoi je suis blanc ou blanche, d'où ça vient. Et je fais un jeu aussi, même avec les adultes, très souvent je dis, dites-moi qui est blanc ou blanche ici. Donc un monsieur lève la main, vous appelez comment? Pierre, vous avez quel âge? J'ai 60 ans. Pierre, depuis quand vous êtes blanc? Ben, depuis toujours. Je dis, vous êtes sûr? Ça veut dire que vous êtes né, tout de suite vous avez été blanc. Il dit, ouais. Je dis, Pierre, cette feuille, elle est de quelle couleur? C'est une feuille blanche. Est-ce que vous avez la même couleur que cette feuille? Non. Alors pourquoi vous dites que vous êtes blanc? Ah bon, c'est vrai? Ben je sais pas. Ben oui, vous dites que vous êtes blanc par habitude. Mais la réalité de la couleur de votre peau n'est pas blanche. Donc pourquoi vous dites que vous êtes blanc? Donc questionner cette catégorie et comprendre que c'est une construction. Et l'idée du livre, c'est nous sommes dans des constructions idéologiques, donc il faut les questionner pour pouvoir s'en sortir. Parce que ce n'est pas anodin qu'on construit des catégories. Et les catégories liées à la couleur de la peau est une construction pour pouvoir exploiter des gens. Et souvent je dis que ces catégories n'ont pas été construites par les paysans de l'Île-de-France, par exemple. Ce sont des constructions par les affairistes et les politiques qui ont besoin de légitimer une violence économique. Par exemple, je dis quelque chose de très vrai et très simple qu'on devrait enseigner aux gens. L'esclavage, par exemple, la traite négrière. En fait, ce n'est pas une confrontation entre personnes de couleurs différentes. C'est un système économique. Si vous voulez exploiter des gens, il faut construire leur infériorité. Et donc, construire leur infériorité, c'est dire, voilà, ils ne sont pas comme nous, et donc nous pouvons les exploiter. Et il y en a qui disent, ben non, ce sont des hommes comme nous. Non, mais non, vous voyez bien leur couleur de peau, vous voyez bien leurs cheveux, vous voyez bien leurs lèvres, vous bien leur forme, ils ne sont pas comme nous. Et si ce discours gagne, ça finit par éduquer toute la population. Et c'est ce qu'on a fait historiquement. Les colonisations, ce ne sont pas des affrontements entre personnes de couleurs différentes. Ce sont des systèmes économiques qui construisent des discours pour légitimer certaines choses. Et l'idée, c'est qu'on puisse grandir ensemble et questionner aujourd'hui notre façon de vivre et voir comment on peut lutter pour plus d'égalité, plus de justice dans la société.
Comment on sort de ces prisons identitaires? C'est ce qu'on verra dans l'épisode 4, Lilian Thuram, puisqu'on parlera d'éducation et d'égalité et de la façon dont on peut changer les imaginaires. Merci Lilian Thuram. On se retrouve demain pour le 4e épisode.
Avec plaisir.
À suivre l'épisode 4, Un autre imaginaire. À demain. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Nicolas Mathias, réalisation Somanina, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.